Je vous salue.
Bonjour, nous vous saluons. Voici. Mieux servir le plan hiérarchique à l'entrée de l'ère du Verseau. Et quel est le rôle du Christ actuellement ?
Soyez les bienvenus pour ce nouveau partage. Et sachez que, quoi que vous entendiez aujourd'hui et à cette heure, ce qu'il faudra surtout faire avec la parole entendue, c'est justement quelques actes. Il faudra pétrir la parole comme on pétrit une pâte, afin que cette pâte devienne un pain et que ce pain se partage avec les autres. Et que le partageant avec les autres, cette parole soit en même temps donc un pain de vie. Comme je l'ai déjà dit si souvent, il ne sert à rien de parler. Surtout pas lorsque l'on est un maître, comme les hommes nous appellent. Surtout pas non plus lorsque l'on est supérieur à un maître, ou même si l'on est simplement un initié, ou tout simplement encore rien qu'un homme de bonne volonté. Il ne sert absolument à rien de parler, d'indiquer non seulement ce qu'est Dieu, mais en plus, comment peut-on aller vers Dieu ? Quelle est la nature du chemin, la nature des couleurs, l'origine des sons et la magie de tous ces sons ? Il ne sert à rien de décrire toutes ces choses, car la parole, malheureusement, est par trop descriptive. Alors qu'elle devrait être un moyen d'expérimentation. Si donc je suis limitée, en ce sens que aujourd'hui je ne peux que vous parler, il appartient cependant à vous de faire ensuite l'effort et de commettre le pas d'aller vers l'expérience. C'est-à-dire que lorsqu'une parole est donnée et lorsqu'elle vient de quelqu'un dont l'esprit est suffisamment développé, cette parole tombe dans l'esprit des hommes d'abord comme des mots. Puis lorsque les mots sont entrés et que les mots se sont fanés, exactement comme fane une fleur, lorsque les mots donc sont entrés puis sont fanés, ils restent dans le centre du cerveau de celui qui a écouté. Il reste à ce moment-là l'énergie. Et c'est sur cette énergie qu'il faut compter pour que ce qui a été entendu et que ce qui a été entendu viennent de moi ou d'autres personnes, ce qui a été entendu puisse donc devenir un pain d'alchimie pour le partager avec d'autres ou simplement pour s'en nourrir soi-même et se développer soi-même. Si je précise cette chose, ce n'est pas pour que désormais vous m'écoutiez très religieusement et que vous ayez peur de rater un seul mot, une seule virgule, comme si par là même vous auriez raté l'occasion d'emmagasiner de l'énergie à l'intérieur de votre pinéale. Ne confondez pas attention avec ouverture. Autrement dit, pour que l'énergie se dépose autant que le mot, qui lui ensuite va faner et être oublié, il ne faut pas tant que vous soyez dans une écoute absolue, tendue à l'extrême dans l'attention intellectuelle. Même si vous n'écoutez rien de ce que je dis, il faut que vous puissiez suivre le flot de la parole, en pleine ouverture, sans même vous préoccuper du sujet que l'on aborde. Alors ce que je vous propose comme attitude à l'égard de ce genre de discours, c'est de l'écouter le plus possible, si cela vous convient, les yeux fermés dans l'intériorisation. Ce qui ne veut pas dire que celui qui aura les yeux ouverts n'accomplira rien de ce que je viens de dire. Car on peut avoir les yeux ouverts et être aussi en profonde intériorisation. Tout dépend du talent que vous vous sentez comme étant le plus prédominant. Si votre ouverture n'est pas gênée par le fait que les yeux regardent quelque chose, eh bien, restez les yeux ouverts. Pourquoi est-ce que je mets aujourd'hui l'accent sur l'énergie ? Non pas parce que depuis le temps que je parle, je voudrais que le dialogue s'oriente vers une autre alchimie. Non pas non plus que je suis fatiguée de parler depuis ces 5 années où j'ai commencé. Je voudrais simplement que, au fur et à mesure que l'égrégore se constitue, qu'il y ait des individus qui ne soient plus là simplement pour m'écouter, mais pour commencer à travailler. Car c'est de cela qu'il s'agit. Je n'annonce pas en ce sens que je vais commettre un changement dans mes attitudes de travail. Les étrangers seront toujours les bienvenus. Je ne dis pas que je vais cesser de parler au plus grand public. Tout le monde sera toujours accueilli. Seulement celui qui n'a pas décidé de travailler ne reviendra pas. C'est pourquoi je signale, en même temps que ce contact est public, je signale néanmoins à mes collaborateurs qu'il faut qu'ils s'attendent à ce que le public rétrécisse avec le temps, pour s'intensifier en même temps. Et excusez-moi de partager avec vous, donc avec le public, les histoires de notre petite famille interne. Le fait en est tout simplement que je n'ai pas suffisamment l'occasion de leur parler en privé. Car même s'ils croient en moi, même s'ils m'aiment, ils négligent ce que l'on appelle l'attitude de groupe. Alors je suis obligée de profiter les rares occasions où je peux m'exprimer en public pour rappeler au groupe qu'il faut constituer un groupe. Ceci étant dit, je vais de nouveau m'intéresser à vous, au large public, et à la question qui a été posée. La question comporte deux niveaux. La hiérarchie et le service, la nature du Christ, l'emploi que l'on peut faire du Christ, à quoi sert le Christ? Même si apparemment on pourrait y voir donc plusieurs niveaux, si on s'y prend à la manière intellectuelle, il existe cependant une seule et même réponse si l'on utilise la vision spirituelle. Il n'y a pas de hiérarchie s'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de Christ s'il n'y a pas de hiérarchie, et il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas de Christ. Et l'inverse existe aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, je veux dire que lorsque l'on s'interroge sur la nature du Christ, pour répondre en même temps à sa fonction, à la catégorie de son travail, à la nature de son travail, je suis obligée en même temps de parler de la nature de la vie. On ne peut pas dissocier la vie, son mouvement, son être, et le Christ. C'est un peu comme si, cosmiquement, il fallait un être d'une envergure telle qui, grâce à cette envergure, justement, devient le réceptacle de la vie, la brique de la vie. Exactement comme le sang à l'intérieur du corps humain est la brique de la vie. C'est grâce au sang que la vie circule dans l'homme. C'est grâce au sang que toutes les informations sont transportées dans l'homme et dans son intelligence. C'est grâce aussi au sang qu'il existe une sensibilité nerveuse, une sensibilité de l'épiderme, une sensibilité même émotive, affective. Car le sang a une fourchette d'oscillation vibratoire extrêmement large. Le sang oscille en harmonie parfaite avec le rythme vibratoire de la matière, ce qui lui permet de pouvoir imprégner les cellules et apporter la vie aux cellules, et en même temps, dans sa partie subtile, je dirais gazeuse, il est capable de vibrer de façon relativement émotionnelle. Ce qui lui donne en même temps une directe incidence sur le système nerveux. C'est pour cela aussi qu'il y a toujours un très grand rapport chez le mystique entre le symbole que représente le sang lors de la messe, par exemple, et son ouverture lors de la prière. C'est pour cela que l'être du sixième rayon est très prêt à se proposer en sacrifice. Il est toujours partant pour offrir sa vie, pour offrir son sang. C'est ce qui le caractérise. Sacrifice de lui-même, sacrifice de son sang. Le sixième rayon a une tonalité très très mystique. Et lorsqu'il pense à servir l'humanité ou à servir Dieu, cela va donc passer forcément par le don de son âme. Ce qui représente les méthodes ou les réseaux de circulation de l'âme dans le royaume physique, c'est justement le sang. Donc, un et un, comme cela fait deux, il est de façon donc très simple de conclure que si le sixième rayon veut servir à quelque chose, il va imaginer devoir donner son sang. Pourquoi est-ce que je parle du sang ? Je parle du sang pour en venir à une image très simple, qui est celle du sacrifice du Christ. Lorsque l'on parle du sacrifice du Christ, il ne faut pas toujours penser et forcément à la croix. On se moque de la croix, on se moque des sacrifices physiques. Cela ne représente rien pour un initié, cela ne représente rien pour un maître. Alors il n'est pas nécessaire, à la suite d'un sacrifice physique, que les disciples de celui qui a été sacrifié commencent à se mortifier, à pleurer la mort, à pleurer la douleur et à vouloir perpétuer cet instant de douleur et à le marquer dans le conscient ou l'inconscient collectif humain comme étant une culpabilité partagée. La souffrance n'est rien pour un initié, n'est rien pour un maître. Vous pouvez découper son corps en 36 morceaux, vous ne serez jamais coupable de rien. Tout simplement parce qu'il n'aura jamais mal. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas sentir la douleur, mais il sera incapable d'éprouver la douleur. Tout simplement parce qu'elle sera localisée à son corps physique et n'entrera jamais dans le cœur de son esprit. Et là est toute la différence. Une différence très grande qui fait que les hommes pourront assassiner les initiés, assassiner les maîtres. Le karma ne sera jamais retenu contre eux. Tout simplement parce que l'assassinat qui est commis n'est pas ressenti comme une douleur jusqu'au creux de l'esprit du maître. Cela reste localisé dans son corps. Ne devient karma que ce qui pénètre dans le cœur de l'esprit de quelqu'un. Cela devient un point noir, cela devient un traumatisme. Et alors il faut que ce point noir ressorte un jour ou soit compensé un jour. Mais s'il n'y a pas de création de point noir, alors il n'y a pas de karma et il n'y a pas besoin de compensation. Donc je veux absolument déculpabiliser la chrétienté du fait que l'homme, avec le H qui signifie tout simplement humanité, du fait que l'homme a été capable de crucifier qui que ce soit, d'abattre qui que ce soit et de recommencer à travers les âges le même sacrifice. Cette culpabilité ne mène à rien, si ce n'est à construire une église qui ne se tiendra debout que par la farce dramatique entretenue. Et rien ne tient debout sur une farce dramatique entretenue. Il ne faut pas sans cesse rejouer la même scène. Il faut au contraire tirer une sagesse de cette scène. Qu'est-ce que je veux dire donc par sacrifice, si je ne mentionne pas la croix ? Je parle d'un sacrifice bien plus grand. Un sacrifice qui est de l'ordre cosmique. C'est comme ça que vous l'appelleriez si votre conscience le contemplait. Lorsqu'il y a création, il faut que les âmes viennent de quelque part. On ne peut pas créer comme cela des âmes sur un ordre, en façonnant des énergies, en émettant des sons. Tout le monde imagine que l'homme est né un jour parce que Dieu a prononcé un son. Le son est sorti hors de lui, et au bout du son, il y a eu quoi ? Un petit homme. Et depuis ce temps-là, cet homme essaye de retrouver le son primordial. Cela ne va pas exactement de cette façon-là dans le cosmos. S'il y a vie, s'il existe le phénomène de la vie, c'est parce que cette vie est sortie d'une autre vie. C'est parce qu'elle appartient à une vie plus grande qu'elle, qui s'est subdivisée pour constituer les différentes petites vies. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'on imagine qu'elle ferait l'ouvrage de Dieu, par exemple, cette femme-là qui serait enceinte de cette façon-là ne serait pas simplement en train de fabriquer le corps et n'aurait donc pas seulement à donner de son calcium, de son sang, de l'air qu'elle respire, de toutes les substances qui composent son corps. Elle aurait en plus à donner cette chose indescriptible et subtile qui s'appelle son âme. Ce qui fait qu'en créant le corps, au moment où le corps s'échappe hors d'elle, une part de son âme lui serait empruntée pour pouvoir animer ce corps. Et c'est cela le principe christique. C'est cela qui est en vous. C'est cela qui fait que vous-même, vous êtes ce que l'on appelle le Christ. Et c'est ce qui fait qu'en même temps, celui qui est appelé le Christ cosmique est à l'intérieur de vous tous. Donc, par la même présence sur la terre, à tout instant, à travers chaque être. Cosmiquement, donc, la substance christique est l'élément de base de la vie, comme le sang. Le sang qui est la cristallisation la plus dense de l'âme. Lorsque l'on comprend que donc l'aspect christique de l'univers est l'essence de toute vie, il est donc facile de comprendre quelle est la nature humaine. Vous devez pouvoir immédiatement concevoir sur quoi vous devez travailler. Comment vous devez travailler? Quel est votre véritable maître? Quel est votre véritable devoir? Si vous connaissez ce qui vous constitue, si vous connaissez votre essence, en même temps, cela vous donne toute la ligne d'action à suivre. Cela vous donne en même temps toutes les intuitions favorables pour pouvoir édifier votre propre chemin sans jamais regarder celui des autres. Et c'est ce qui doit vous faire en même temps comprendre que l'humanité ne fait qu'un seul être. Et que ce n'est pas simplement par sympathie, par fraternité, par idéalisme que les hommes doivent se sentir frères. Ce genre de fraternité-là n'existe pas. Il est impossible que des hommes puissent fraterniser si on imagine qu'à l'origine, leur naissance provient de la division. Par contre, on peut tout de suite comprendre que les hommes sont véritablement frères si l'on sait que, dès l'origine, ils étaient de toute manière un seul être et que l'âme est un seul être. C'est pourquoi, dans le début de mes discours, j'ai souvent appelé l'humanité du nom de Humanos, pour faire comprendre aux hommes qu'il s'agissait d'un seul et même être planétaire, et non pas de différents hommes éparpillés. Et parmi ces hommes, il y a les bons et puis les mauvais, les initiés et puis les profanes. Il n'y a pas d'initiés et il n'y a pas de profanes. Ce type de catégorie n'existe pas dans notre esprit. C'est pour cela que chaque fois que vous entendrez quelqu'un parler de la sorte, il faudra rire, rire abondamment. Ne jamais essayer de le contredire, car ces gens-là sont tellement cristallisés autour de leur système de pensée qu'il est inutile d'aller les bousculer. Par contre, mettez de l'humour là où il y a au contraire les ténèbres de l'ignorance. Mettez de l'humour et riez. Il n'y a pas de disciples et des profanes. Il n'y a pas des initiés et des profanes. Dans notre esprit, je peux vous assurer que la catégorie n'existe pas. Pour nous, tout est Christ. Tout est la lumière de la vie. S'il existe une différence, c'est simplement dans le fait que certaines de ces lumières se trouvent encore sous un épais manteau, tandis que d'autres ont déchiré déjà leur manteau. Et elles se connaissent, et elles se reconnaissent les unes les autres de ce fait. Et elles jouent ensemble et elles se regroupent, formant ainsi un homme parfaitement constitué, un homme à 7 degrés. Tandis que les lumières qui ont encore un épais manteau continuent à la croire à cause de ce manteau, que peut-être elle s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Annie, Rosemarie. Qu'ensuite il y ait des soi-disant initiés qui se lèvent et qui lèvent le doigt et qui disent « Toi qui te crois encore t'appeler un tel ou un tel, tu prouves que tu es un profane. D'ailleurs, regarde ce que tu fais, tu ne fais jamais rien de bien. Tu es encore jaloux, tu es encore perfide, cupide et je ne sais quoi d'autre, tu es même un assassin. Il est impossible que tu fasses partie de notre collège. Tu ne seras jamais des nôtres. Tu dois changer avant d'être des nôtres. » Ceux qui se pensent initiés et qui agissent de la sorte, parlent de la sorte, prouvent tout simplement une chose, c'est qu'ils ont sans doute beaucoup lu mais qu'ils n'ont rien compris. Car s'ils avaient compris un tant soit peu la parole de quel que soit l'initié qui les prononçait, s'il avait un tant soit peu compris la parole, cet individu-là n'aurait pas reproché à cette lumière qui est cachée dans le manteau de n'être qu'un affreux diable. Cet homme-là aurait au contraire compris sa douleur, senti sa souffrance et aurait essayé de s'approcher de lui pour lui éviter de faire davantage de mal et pour essayer de l'entraîner à voir le bien, la liberté, la libération. Celui qui fait des catégories est un homme qui est encore lui-même dans les ténèbres, car il ne connaît pas la différence qu'il y a entre la vie et la mort. S'il connaissait la différence qu'il y a entre la vie et la mort, il ne ferait pas de catégorie. Il irait partout dans les caves humides et il relèverait celui qui est couvert de boue, celui qui a été fait avec le limon du monde, celui qui est recouvert de la chair. Et il essaierait de défaire ce manteau pour le faire par la même sortir de la cave humide. Et en sortant de la cave humide, celui qui était prisonnier s'apercevrait d'un seul coup qu'en fait il brille de la même lumière que son libérateur. Et sur ce seuil-là, il n'y a ni maître, ni disciple, ni profane, ni initié. Il y a deux lumières semblables qui se rencontrent et qui se reconnaissent. Maintenant, certes, il y a des différenciations dans l'épaisseur du manteau qui recouvre la lumière. Dans l'épaisseur de l'incarnation, disons donc. Les petites lumières qui sont tombées il y a fort longtemps dans la boue et qui ont roulé dans cette boue sur plusieurs longueurs de façon à constituer cet œuf d'argile, ces petites lumières qui ont donc constitué leur œuf il y a très longtemps ont par là même eu le temps d'apprendre aussi à le défaire. Il est donc tout à fait normal qu'un jour l'on puisse rencontrer des gens qui en savent plus ou des gens qui sont davantage. Il faut savoir que le temps a été de leur côté, puisqu'ils sont nés avant. Pour celui qui a fait sa boule d'argile il n'y a pas si longtemps, et je dirai tout à l'heure pourquoi on fait une boule d'argile. Pour celui qui a fait sa boule d'argile il n'y a pas si longtemps, eh bien il n'a pas eu forcément encore le temps de craquer sa boule et de s'apercevoir de la lumière qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous en prie, il ne sert à rien de juger celui qui est divin de celui qui ne l'est pas, de s'énerver à propos des profanes qui vont faire sauter cette pauvre planète. Il n'est pas nécessaire de s'énerver à propos de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et alors, et si la planète saute, qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela peut vous faire? Vous avez la foi, non? Donc, rien de mal ne se passera pour vous. Vous irez le retrouver, Papa Koutoumi, comme vous dites, ou Tonton Moria. Ils vont de toute manière vous reconnaître puisque vous avez la foi. Donc ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous plutôt des implosions dramatiques qu'il y a à l'intérieur de ces petites boules d'argile qui vivent l'enfer. Ce qui fait qu'au lieu de vous regrouper entre disciples, entre initiés, comme vous vous dites souvent, au lieu de vous regrouper, au contraire, éclatez le groupe et allez à l'extérieur. Allez dans les prisons, allez dans les bas-quartiers. Vous ne pouvez pas vous imaginer les méditations fantastiques que l'on peut faire dans les quartiers des criminels. Cela paraît complètement contradictoire. Et pourtant, je vous l'assure, celui qui comprend suffisamment la loi pour faire en lui le sacrifice d'aller méditer, d'aller rayonner dans un quartier de criminels, à celui-là, il sera donné davantage d'énergie, plus que l'énergie qu'il méritait pour faire sa méditation. Et il lui en sera donné non seulement parce qu'il fait sacrifice pour aller aider ceux qui sont dans les ténèbres, mais aussi parce qu'il a compris la vérité. À celui qui comprend la vérité, tout est donné en surplus. Il suffit donc de comprendre pour pouvoir accélérer l'alchimie de l'évolution et de l'initiation. Il est étonnant de voir des gens qui passent toute leur vie à lire, à essayer d'intelligencer les arcanes de Dieu. Il est étonnant de les voir avouer à la fin de leur vie que rien ne leur est arrivé, qu'ils n'ont jamais rencontré aucun maître, qu'ils n'ont jamais vu de lumière, qu'ils n'ont jamais senti le feu de l'âme pendant la méditation. Pourtant, toute leur vie, ils ont étudié, ils ont concentré leur esprit, ils ont même essayé de méditer. Ils ont même appelé le maître ou le bon Dieu. Pourquoi est-ce qu'au bout d'une telle vie d'effort, rien n'est venu? Tout simplement parce que cela n'a pas été compris. Dès qu'il y a compréhension, il y a une énergie qui vient. Cela, il faut que vous le sachiez. Afin que vous concentriez votre énergie sur la compréhension des choses et non pas sur la collection des informations, le stockage des informations. Assouvir la curiosité est une bonne chose. Car souvent, la curiosité peut amener à des moments initiatiques. Mais il ne faut pas en rester uniquement sur cette lancée. Il ne faut pas simplement vouloir comprendre ou connaître Dieu et ses mystères. Il faut à un moment donné prendre un seul mot dans un mystère qui vous est décrit et travailler à ce mot-clé. Chaque mot, surtout si c'est un mot-clé, contient une énergie. Je vous l'ai dit au début du discours. Si donc vous prenez chaque mot comme étant en fait une serrure et que vous considérez votre compréhension comme étant la clé allant dans la serrure, il vous suffira donc de mettre la clé et au moment où vous allez tourner, il va arriver sur votre esprit une pluie d'énergie. Travaillez donc à la compréhension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment s'y prendre? Comment favoriser cet entendement? De manière très simple, il faut absolument cesser d'aller vers Dieu avec la tête. On va sur terre avec la tête. La tête, c'est le premier membre qui sort hors du corps de la mère. L'enfant fait sortir sa tête en premier. Il doit toucher la terre. Et dans ce symbole, il y a une grande vérité qui est démontrée. Mais plus les vérités sont démontrées, et plus elles s'en trouvent par la même cachées aux yeux de celui qui regarde. Autrement dit, pour que Dieu soit le plus inaccessible, il ne lui est pas nécessaire de s'enfermer à Shambhala à double tour. Il suffit qu'il soit au milieu d'un supermarché. Vous pouvez être certain que tous les gens qui vont passer ne le regarderont même pas. Alors que ces mêmes gens qui ne l'ont pas remarqué au supermarché vont aller chez eux, s'enfermer dans leur chambre, ouvrir leurs livres, répéter les invocations et les incantations pour faire descendre Michael afin qu'il apparaisse dans la chambre. Ils vont essayer de sortir de leur corps pour essayer de se projeter dans Shambhala et voir enfin le nez que peut avoir Kutumi. Pourtant, tout aurait pu avoir lieu au supermarché. Donc, revenons au symbole de la naissance. Pourquoi je dis qu'il est important de comprendre le fait que l'enfant passe sa tête en premier et que sa tête doit toucher le sol? Tout simplement parce que l'âme est venue dans l'incarnation pour pouvoir toucher la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si l'on symbolise l'âme par un triangle, la tête va représenter le sommet du triangle. Quand l'âme est en incarnation, le triangle est donc renversé et descend dans la matière. Ce triangle a pour but d'aller toucher le carré de la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de l'incarnation, autrement dit, il y a une puissante énergie à récupérer. Cela, je vous l'ai déjà dit très souvent. Il y a une extraordinaire énergie à développer pour se régénérer, pour se perpétuer. La vie est perpétuelle, non pas éternelle, elle est perpétuelle. Elle doit donc retrouver sa jeunesse. Donc, pour celui qui veut aller vers Dieu, trouver Dieu, il va s'agir non pas d'y aller avec la tête, comme au jour de la naissance, quand il faut descendre dans la matière. Il faudra y aller avec le cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je mentionne le cœur, je ne mentionne pas la voie cardiaque comme étant la suprême voie, le chemin unique. La voie cardiaque, soit le rayon 2 ou le rayon 6, cette voie-là n'est pas la voie unique. Cependant, il faut savoir qu'en développant le chakra du cœur, on développe en même temps la capacité intuitive de l'individu, sa capacité de contemplation, de pénétration par l'entendement. Alors que si on va loger toutes les énergies dans la tête et principalement dans les centres intellectuels, on arrivera vers Dieu avec un intellect et pas du tout avec une porte ouverte. Je ne veux pas dire que l'intellect n'est pas nécessaire. Et je ne dis pas non plus qu'on doit se défaire absolument de l'intellect pour aller vers Dieu. Je dis simplement qu'au moment où l'on veut cesser d'intellectualiser pour pénétrer le mystère, c'est là qu'il faut décrocher la tête et ressortir le cœur. Concrètement donc, comment je vais m'y prendre quand je suis devant un livre ou à l'écoute d'une parole? Eh bien concrètement, je vais agir de la manière qui suit. Je ne vais plus monopoliser mon activité mentale dans la recherche et l'interrogation. Car il va de soi que si je m'intéresse à un mystère, c'est parce que je ne connais pas ce mystère. Donc, mon activité mentale va être toute tournée vers l'interrogation. Il faut donc que je cesse de m'interroger pendant un court instant et que je fasse un vide nécessaire pour entendre la parole, recevoir l'intuition, avoir la vision en quelque sorte. Donc, mon intellect m'a permis d'arriver jusqu'à l'endroit où je pouvais prendre connaissance de l'existence d'un mystère en me posant la question. Sitôt que J'ai pris connaissance de l'existence de ce mystère, je dois cesser d'utiliser le mental. Je dois le transformer en une cuvette limpide qui immédiatement tracera une voie vers le mental abstrait, le mental intuitif. Dès que cette voie est tracée comme un axe brillant, les deux parties de l'intelligence vont pouvoir entrer en résonance. L'intelligence, pour nous, c'est donc la somme du mental abstrait et du mental concret. Un être qui est largement développé sur le plan mental concret n'est pas pour nous un être intelligent. C'est un être intellectuel, bien sûr, mais il n'est pas intelligent. Il n'est pas dépositaire de l'intelligence. Il ne sera pas capable d'agir avec intelligence. Cependant, dès que le mental abstrait, dès que l'intuitif commence à bouger en lui, alors il y a immédiatement installation de l'intelligence. Et pour nous, en fait, l'être commence à vivre. C'est à ce moment-là que l'on peut véritablement dire et affirmer qu'un homme est vivant. Avant, il ne l'est pas. Il est complètement mort. Et pas simplement au sens spirituel, dans tous les sens possibles et imaginables. Il est mort, car il n'est pas capable de soupçonner quoi que ce soit à propos de l'envergure de la vie, de la beauté de la vie, de l'espace, des autres étoiles, de l'amour ou de quoi que ce soit d'autre. C'est un être très petit qui ne pense qu'à son petit univers et qui ne prend même pas la peine d'essayer de se demander ce que peut représenter les milliards et les milliards de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil, par exemple. Il se sent recouvert par le manteau du ciel et pour lui, le monde s'arrête là, entre la Terre et le ciel. Ça, c'est la vision que donne l'intellect. Dès que l'on commence à s'intéresser à une autre dimension, même si elle ne paraît être que spatiale, dès que l'on commence à s'intéresser avec envergure à autre chose, c'est le signe que le mental abstrait a commencé à fonctionner et que la naissance est en train, petit à petit, d'avoir lieu. Autrement dit, un homme n'est vivant que lorsqu'il arrive à abstraire, à intelligencer les grands arcanes, mais non pas avec l'intellect, bien sûr, comme je viens de le dire, mais avec la substance de l'intelligence. Et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce qu'est la substance de l'intelligence? Si vous repartez sans avoir compris ce qu'est la substance de l'intelligence, j'aurais parlé pour rien dire. Et les frères savent à quel point j'ai horreur de parler pour rien dire. Déjà que parler ne signifie pas grand-chose, alors si en plus c'est vraiment pour rien. Dans cette prise de conscience, je vais vous demander toute votre collaboration. Car je ne vais pas simplement essayer de faire un beau discours, je me moque des beaux discours. Si vous saviez à quel point il a fallu que je m'entraîne et que je m'entraîne pour arriver à manipuler la substance de la pensée des hommes, pour arriver un jour à concrétiser des paroles. Ce n'est pas si facile que ça. Faire le tri dans toutes les substances et les images de l'esprit humain pour arriver à ordonner les idées qui sont comme des poissons qui s'enfuient, arriver à les tenir, à les construire pour qu'ensuite ils soient projetés en tant que paroles, c'est tout un travail. Donc je vous demande toute votre collaboration. Et pour qu'elle ait lieu, essayez d'ouvrir pleinement votre cœur. Qu'est-ce que la substance de l'intelligence? L'intelligence de l'âme. Celui qui veut véritablement travailler à son évolution, au bien commun, ou s'avancer vers l'initiation, celui-là doit tout à fait comprendre ce qu'est l'intelligence de l'âme, car il lui faudra compter sur cette intelligence de l'âme. Quand je dis intelligence de l'âme, il ne faut pas imaginer avec caricature que l'âme a un cerveau, que l'âme pense, que l'âme tire des conclusions et qu'elle envoie ensuite ses conclusions dans le cerveau physique de l'individu. Pour comprendre que l'âme a une intelligence, il faut se souvenir ce qu'est l'essence de l'homme. Se souvenir que l'homme est une conscience. Que tout est conscience dans l'univers, dans l'infini. Tout est conscience. Cette conscience est en état de contemplation constante de ce qu'elle est elle-même. C'est-à-dire qu'elle se connaît parfaitement. Et c'est du fait de cette connaissance parfaite qu'elle a d'elle-même que la conscience a tous les pouvoirs et qu'elle peut par là même développer ce que l'on pourrait appeler tous les univers, toutes les alchimies, créer tous les effets possibles et imaginables dans le matériel. Le pouvoir ne vient donc pas du pouvoir lui-même tel qu'il est imaginé par les hommes, c'est-à-dire une énergie extraordinaire dans laquelle on peut puiser ou qu'un beau jour on incarne parfaitement. Le pouvoir n'est pas une énergie. Le pouvoir est avant tout, tel que nous l'entendons en tout cas, le pouvoir est avant tout un état de conscience. Grâce à l'état de conscience qui est ainsi développé, contemplé, l'homme a par là même accès à tout ce que contient cette conscience. Autrement dit, nous faisons une différence majeure entre la manipulation des énergies en provenance du royaume terrestre et les émanations de la conscience. Les manipulations d'énergie en provenance des royaumes physiques, ces manipulations-là semblent être le plus grand des pouvoirs. Parce que l'on peut faire des choses extraordinaires. On peut matérialiser des fleurs, on peut matérialiser des cendres, on peut matérialiser une horde de chiens qui, par exemple, va attaquer l'ennemi. Et l'on pourrait comme cela défendre sans problème toute une nation sans avoir besoin de créer des armes nucléaires. On peut faire absolument tout avec les énergies qui proviennent des royaumes physiques. Cependant, cela n'est pas le pouvoir. Non. Cela n'est pas le pouvoir et je vais le démontrer. Tout simplement parce que si l'on met en présence le magicien qui est capable de créer ces hordes sauvages et l'initié qui connaît le fin fond de son âme. Imaginons que tous les deux soient en conflit. Eh bien, le magicien pourra créer toutes les hordes de lions qu'il veut. La horde de lions sera automatiquement désagrégée par le regard de l'initié. Quel est donc le plus grand pouvoir? Forcément celui de l'initié, donc celui de la réalité. Et c'est pour cela que la horde sauvage du magicien ne peut pas tenir sa vraisemblance dans le conflit, tout simplement parce que cette horde est une illusion. Même si elle paraît très réelle, aux yeux du profane, elle est une illusion. Et quand une illusion se dresse en face de la réalité, eh bien la réalité dissout l'illusion. C'est aussi simple que cela. Le véritable pouvoir, donc, c'est tout simplement le rayonnement de la réalité. C'est ce qui fait qu'un homme va pouvoir passer de la mort à la vie, simplement parce que cet initié va effleurer son front. Passer de la mort à la vie. Cela, vous le pouvez. Vous le pouvez même si vous êtes seul, en développant l'intelligence de l'âme. Donc, je reviens au sujet. Qu'est-ce que l'intelligence de l'âme ? L'intelligence de l'âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le regard de la conscience tournée sur elle-même.